Voici la revue de presse de Frédéric Pommier. Bonjour Frédéric.
Bonjour Eric, bonjour Patricia et bonjour à tous. Ce matin, la presse est aux anges. Tous les journaux se félicitent de l'heureux tirage au sort qui a eu lieu hier. Le tirage au sort pour désigner les équipes qu'affronteront les footballeurs français en phase de groupe lors de la prochaine Coupe du Monde en Russie, en l'occurrence dans leur groupe. Il y aura donc le Pérou, le Danemark et l'Australie, des adversaires que chacun juge vraiment à la portée des joueurs de Didier Deschamps. D'où cet enthousiasme. Cet énorme enthousiasme ce matin. Bonne pioche pour les Bleus, titre à sa une Sud-Ouest. La bonne étoile des Bleus, titre le Télégramme. Les Bleus bien servis, approuve Presse Océan. La France bien lotie, renchérit la Nouvelle République, tandis que l'Indépendant évoque un tirage qui donne le sourire. La France a donc le sentiment d'avoir gagné au tirage, note pour sa part Jean Levallois dans la presse de la Manche. Et elle va s'efforcer maintenant de ne pas perdre au grattage, ne pas perdre donc, surtout quand la partie paraît assez aisée. Mais il peut arriver que des footballeurs perdent face à ses adversaires. Pourtant, à leur portée, c'est la loi du sport, dirons-nous. Sauf que parfois, ça sent l'arnaque.
L'arnaque, c'est ce que raconte ce matin le magazine L'Équipe.
Truqué, c'est le titre à la une. Un match de foot très suspect entre Fréjus et Colomiers. Des paris à l'autre bout du monde, deux joueurs mis en examen. Et même l'ombre d'un réseau criminel asiatique. Une enquête des révélations du reporter Grégoire Fleureau où comment une simple rencontre de national dévoile la mécanique mondiale de la corruption. Il faut lire son papier. Honnêtement, c'est passionnant. Et au départ, il y a donc un match le 9 mai 2014. On joue depuis 3 minutes dans le petit stade Eugène Pourcin de Fréjus. Le soleil couchant rougit les ruines de l'aqueduc romain voisin, visible depuis la tribune principale. Sur le terrain, le défenseur central et capitaine de l'étoile Fréjus Saint-Raphaël, Matarfal, adresse une passe en retrait vers son gardien, Dominique Jean Séphirin. Le ballon file devant lui et termine sa course au fond des filets. Sur ce but, contre son camp, comme sur les trois qui suivent rapidement, les deux joueurs semblent à côté de leur pompe, comme au ralenti. Après seulement 22 minutes de jeu, l'étoile est menée de 4 buts à domicile par Colomiers, qui n'a pourtant plus gagné depuis 13 matchs. Les 400 spectateurs sont médusés, certains quittent déjà le stade, d'autres sifflent. Comment donc leur équipe, dixième de National, la troisième division française, est favorite? Comment donc peut-elle se faire humilier ainsi à domicile par un club relégable? Comment donc était-ce possible? Eh bien, tout bonnement parce que le match était truqué. Le défenseur et le gardien de l'équipe de Fréjus avaient été payés pour faire perdre leur équipe. Aujourd'hui, ils sont mis en examen pour corruption passive et participation à une association de malfaiteurs. Et dans le cas probable d'un renvoi devant la justice, le premier procès du genre en France pourrait se tenir dès l'année prochaine.
Également à la une de la presse de ce samedi, des images, cette fois sans trucage.
Malheureusement. Sans trucage. Ce sont ces images qui ont fait le tour du monde il y a 2 semaines et qui ont indigné la planète entière. Des images diffusées sur la chaîne CNN, reportage, qui montrait une vente aux enchères de migrants africains dans une maison près de Tripoli, des garçons grands et forts, vendus pour le travail de ferme, 400 euros, 700 euros, un marché aux esclaves, filmé en caméra cachée, et c'est le sujet en une du Parisien ce matin, esclaves en Libye, que peut vraiment faire Macron? Et le quotidien de préciser que face à l'émotion provoquée par la diffusion de ces images, le chef de l'État a décidé de monter au front contre les passeurs. Pour ce faire, il tente de mobiliser ses homologues africains. Reste à savoir comment, et c'est là que ça coince. Emmanuel Macron a dénoncé un crime contre l'humanité. Et comme le note Stéphane Albouy dans son éditorial, faire un diagnostic aussi cruel qu'il soit est parfois le premier pas à faire. En vue de la guérison, les déclarations du président de la République étaient donc nécessaires, écrit-il, mais reste une foule de questions. Quels pays vont intervenir et selon quelles modalités et que deviendront les migrants dont la vie est menacée dans leur pays d'origine? Le président français, auquel s'intéresse également Le Figaro ce matin, mais avec un angle nettement moins dramatique, comment Macron impose son style au palais de l'Élysée, c'est le titre à la une. Cérémonial républicain pompeux, dorure monarchique chargée, protocole pesant. Le président, on le sait, n'aime guère ce lieu impersonnel et il tente avec son épouse de modifier les habitudes et même la décoration, nous dit-on. On déplace des tapis, des tableaux, on nettoie les rideaux. Brigitte et Emmanuel Macron se sont livrés à une sorte de nettoyage de printemps au palais de l'Élysée. Et le Mobilier National a même reçu des demandes pour venir y installer des objets d'art contemporain. Le président s'efforce d'imprimer sa marque avec une obsession, nous dit le Figaro. Tout faire pour se démarquer de ses prédécesseurs.
Mais finalement, hormis les Chirac, il y a finalement assez peu de couples présidentiels qui ont aimé ces journées à l'Élysée. Dans la presse également ce matin, une initiative artistique, c'est à la une de Nord-Éclair.
La mairie de Lille a fait appel à des artistes pour décorer les fameux blocs de béton dressés dans les rues afin de sécuriser l'espace public. Des blocs, vous savez, pour tenter d'éloigner la menace de voitures béliers qui foncerait dans la foule. Il y en a désormais dans de très nombreuses villes en France et à Lille. Ils vont donc se transformer en œuvre d'art. Dans l'écho de la Haute-Vienne, photo des salariés de l'ancienne Castorama qui hier ont manifesté pour dire leur refus de la délocalisation d'une part des activités de l'entreprise de bricolage en Pologne. 750 postes pourraient disparaître en France. J'ai noté par ailleurs cette généreuse initiative dans Aujourd'hui le Parisien. Des associations qui proposent un calendrier de l'Avent inversé. Principe de ce calendrier, offrir chaque jour avant Noël un petit présent à quelqu'un dans le besoin. Et puis j'ai découvert un nouveau mot dans le mensuel Psychologie Magazine. C'est le terme demisexuel. Je ne sais pas si vous connaissiez.
Non, dites-nous.
Eh bien, pour votre information, sachez donc que demisexuel désigne celles et ceux qui ne peuvent éprouver du désir que pour une personne avec qui le lien affectif est très fort. Autrement dit donc, un ami. À distinguer des grès sexuels, je ne sais pas si vous connaissiez.
Ça devient un peu compliqué pour
moi. Grès sexuel, ça désigne les femmes et les hommes éprouvant rarement du désir. Ce qui n'est donc pas le cas des demisexuels. Le demisexuel, lui, il éprouve du désir, mais uniquement pour ses amis. Et maintenant, Eric, vous savez tout, mon ami.
J'en prends bonne note.